Il est presque 6h40. Bonjour Julie Gacon.
Bonjour Clara Lecoq-Réal.
Nous vous retrouvons pour les enjeux internationaux sur France Culture. Et ce matin, Julie, vous vous penchez sur le procès d'un leader kurde à Ankara.
Oui, il a commencé hier ou recommencé, car Selahattin Demirtas est sous le coup de plusieurs procédures judiciaires depuis son arrestation fin 2016. Ancien député, coprésident du Parti démocratique des peuples, le HDP, qui est le principal parti pro-kurde de Turquie, il est accusé par le gouvernement de diriger une organisation terroriste, de propagande terroriste et d'incitation à commettre des crimes. Pour Recep Tayyip Erdogan, le Parti démocratique des peuples est la vitrine politique du Parti des travailleurs du Kurdistan, le PKK, dont l'insurrection armée a fait depuis les années 80 quelques 40 000 morts et qui continue de temps en temps à revendiquer une attaque, notamment contre les intérêts militaires turcs, malgré un dialogue amorcé en 2012. Alors les Kurdes de Turquie ne sont pas les Kurdes de Syrie, même s'ils leur sont liés d'une manière d'une autre, mais dans le cadre du procès de Selahattin Demirtas comme de celui de l'offensive turque dans le nord syrien en octobre, la logique est la même pour Erdogan. La question kurde est une question sécuritaire. Bonjour Ahmet İnsel.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Vous êtes économiste et politiste turc. Vous avez publié La nouvelle Turquie d'Erdogan, du rêve démocratique à la dérive autoritaire aux éditions La Découverte. Tout d'abord, qui est Selahattin Demirtas? Je dois préciser ici que vous le connaissez bien. Qui est-il et que représente aujourd'hui le Parti démocratique des peuples, le HDP, dont il reste une figure de proue malgré sa détention?
Selahattin Demirtas est un politicien juriste. Il a été longtemps avocat au barreau de Diyarbakır et travaillé dans le cadre de l'Association des droits de l'homme. Il est devenu, au début des années 2000, il a été élu député en 2007, député indépendant dans un premier temps. Et à partir de 2011, il a été président, co-président, parce que le Parti kurde tient à ce que, à tous les instances, qu'il y ait une homme et une femme co-présidente dans le parti. Donc, il a été co-président du parti à partir de 2011 et il a été candidat contre Tayyip Erdogan pour la première élection au suffrage universel du président de la République en 2014.
Avec quel résultat pour lui?
Il a eu 8,5% des voix, il a eu une campagne très importante et l'année suivante, en 2015, son parti a réussi à obtenir 13% des voix aux élections législatives en juin 2015 et ça avait empêché Tayyip Erdogan pour la première fois depuis son arrivée au pouvoir en 2002, de perdre la majorité parlementaire. Cette réussite du HDP, dont Demirtas était un des maîtres d'œuvre par la campagne qu'il avait poursuivie. Et d'ailleurs, aujourd'hui, Tayyip Erdogan lui fait payer essentiellement cette défaite, le prix de cette défaite.
C'est ce que disent les partisans et défenseurs évidemment de Demirtas, que son seul crime, c'est d'être l'opposant le plus à même d'affronter Recep Tayyip Erdogan. Est-ce que ça vous semble plausible, Ahmet İnsel, aujourd'hui qu'un Kurde puisse remporter des victoires électorales telles qu'il représente un danger pour le président turc dans un pays où les Kurdes restent quand même une minorité?
C'est pas encore. 15% à peu près.
Oui, mais est-ce que c'est un parti qui séduit au-delà de l'électorat kurde?
Oui, exactement. Il y a deux choses. D'une part, le parti HDP, le Parti démocratique des peuples, est un parti qui mobilise un électorat kurde essentiellement, évidemment. Mais en même temps, la gauche socialiste fait alliance. Il y a des membres, par exemple, actuellement, le président, le coprésident du parti n'est pas un kurde, c'est une femme, c'est la coprésidente est une kurde, mais le coprésident est d'origine turque. Et d'autre part, il y a un électorat de gauche qui soutient ce parti HDP, qui fait que, comme je vous ai dit, en 2015, le parti a obtenu 13% des voix. Dans des conditions très très difficiles, les années suivantes, ce parti a obtenu toujours plus de 11% des voix, plus de 10-11% des voix. Alors, Demirtas, personnellement, représente un danger pour Tayyip Erdogan, non pas d'être élu à la place de Tayyip Erdogan. Je ne pense pas qu'il dispose d'un soutien, pour le moment encore, d'un soutien suffisant pour obtenir plus de 50% des voix, mais il est capable, il est un des hommes politiques aujourd'hui capable d'empêcher l'élection de Tayyip Erdogan dans une coalition en faisant partie d'une coalition démocratique.
Son parti, le HDP, pardon, Ahmet İnsel, a par ailleurs remporté des élections municipales dans une soixantaine de communes, je crois, et 22 maires ont été dessaisis récemment. Qu'est-ce que ça veut dire? Comment on dessaisit un maire élu en Turquie?
Malheureusement, la Turquie n'est pas, actuellement, il n'y a pas l'état de droit en Turquie. Il y a un état de fait, il y a un état de l'arbitraire, et le ministère de l'Intérieur décide, sous l'argument toujours de lutte contre le terrorisme, parce que vous savez que comme pour Demirtaş et pour des centaines, des milliers de cadres du parti HDP, l'argument lutte contre le terrorisme est devenu vraiment le couvre-sexe de cette dictature ou de cet arbitraire du pouvoir. Et effectivement, le ministère de l'Intérieur décide, sous prétexte d'ouverture d'une enquête pour soutien au terrorisme par le parquet, immédiatement dessaisir, avant même la condamnation des personnes, dessaisir les maires et nomme la plupart du temps le préfet ou le sous-préfet à la place comme administrateur. Et c'est une manière pour Tayyip Erdogan, qui dirige directement cette opération, je crois, en tout cas on le voit, c'est une manière de dessécher, d'empêcher HDP de mener une politique municipal de renforcement de base, mais pour le moment, ceci n'a pas donné de résultats attendus de la part de Tayyip Erdogan, puisque HDP, aux dernières élections municipales, avait regagné la totalité quasiment des municipalités qui avaient subi avant 2019 le même sort par le pouvoir, c'est-à-dire maire élu, dessaisi, nommé et un administrateur nommé à sa place.
Alors vous parlez au sujet de la Turquie d'un état de fait. L'état de droit n'existe pas, dites-vous, c'est un état de fait. Le détenu, pardon, Selahattin Demirtaş a commencé hier sa déposition en parlant du système d'Erdogan comme un système de chaos dans lequel plus rien n'est possible, où personne ne peut exiger de compte. Vous avez suivi le début du procès dans la presse turque. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire pour l'instant?
Demirtaş a fait une défense très politique en soulignant d'abord que ce procès est exclusivement politique et selon la Constitution, poursuivre les personnes pour des raisons politiques est anticonstitutionnel, est un crime. Il a d'autre part attaqué directement le régime de Tayyip Erdogan qui s'est mis en place à partir du changement constitutionnel de avril 2017 en bien soulignant qu'il s'agissait d'une autocratie compétitive et il a souligné effectivement que dans cette autocratie, c'est-à-dire la direction où tous les pouvoirs sont dans les mains d'une personne, il s'agit d'un chaos, que toutes les institutions de l'État turc sont détruites ou vidées de leur substance. Et il a encore souligné que, évidemment, qu'il n'a pris d'ordre d'aucune autre instance que la direction de son parti et le mandat du peuple. Il a réfuté toute accusation de collusion avec d'autres organisations, quelles qu'ils soient. Et il a souligné surtout que l'objectif de son parti et son objectif est de faire partie d'une coalition démocratique qui arrivera au pouvoir pour enfin libérer la Turquie de ce joug de l'arbitraire. Et il a accusé Tayyip Erdogan d'être un peu usurpateur en soulignant que on n'est même pas sûr qu'il dispose vraiment d'un diplôme universitaire qui est nécessaire pour la Constitution turque pour devenir président de la République. Donc il était dans une posture de tribun. y compris il a utilisé le tribunal pour comme un lieu de message de lutte contre Erdoganisme.
Alors Erdogan, je ne sais pas s'il va brandir ses diplômes pour répondre à l'affront de Selahattin Demirtas. En tout cas, il n'a jamais répondu aux exhortations de la Cour européenne des droits de l'homme qu'il a à plusieurs reprises sommé de libérer le leader kurde au motif, dit-il, Erdogan, que son parti est la vitrine politique du parti des travailleurs du Kurdistan, le PKK, qu'Ankara et les Occidentaux considèrent comme terroriste, qui a de longues années durant mené des attaques et une guérilla contre les intérêts turcs, tuant également des milliers de civils. Quelle est la nature des liens qui existent aujourd'hui entre le PKK et le parti de Demirtas?
Normalement, il n'y a pas de lien direct entre PKK et parti de Demirtas. Mais en revanche, dans le chef d'accusation, une des pièces qui est utilisée par le procureur pour accuser Demirtas, c'est d'avoir visité les dirigeants du PKK à Kandil, et une photo où Demirtas a rendu la visite. Mais il faut rappeler que cette visite, comme la plupart des visites qui ont été faites à l'époque en 2014, a été autorisée par le gouvernement turc dans le cadre d'une négociation de paix. Il y avait un processus de négociation de paix et il y avait des journalistes turcs, des gens chargés par le gouvernement turc d'aller à Kandil, en Irak, négocier avec les dirigeants du PKK ou avec le chef historique du PKK qui est en prison. Et donc, du coup, c'est dans le cadre de ces négociations que Demirtas aussi a pu avoir des contacts avec les dirigeants du PKK. Mais directement, il n'y a aucune preuve dans son dossier d'une soumission, d'une prise d'ordre, d'une direction du PKK sur l'HTP. Alors, il peut y avoir, par contre, PKK est une organisation qui utilise à la fois des moyens militaires armés, parfois des actions terroristes, et il dispose d'une base sociale, d'un soutien populaire, évidemment. Peut-être, on ne sait pas combien, et il peut y avoir dans la base électorale du HTP des sympathisants du PKK, probablement. Mais de là à souligner, à affirmer que HTP est une sous-marin du PKK, c'est une tactique qu'on a utilisée beaucoup, comme vous savez, dans la plupart des pays où les minorités ont été réprimées.
Alors, cet entretien a été l'occasion à Ahmet İnsel de faire aussi un point, de reparler des Kurdes de Syrie, dont nous avons beaucoup parlé en octobre à l'occasion de l'offensive turque jusqu'en novembre, et puis dont on ne parle à nouveau plus beaucoup. Il y a les Kurdes syriens qui sont liés au PKK par l'intermédiaire des YPG, les unités de protection du peuple, ou des PID, les milices kurdes syriennes qui donc ont été créées en 2005 par le PKK, qui ont encore un lien avec elles. Mais il y a aussi le Conseil national kurde de Syrie, cette coalition de partis qui ne sont pas affiliés au PKK, qui se retrouvent aujourd'hui dans une position de faiblesse. Comment vont-ils aujourd'hui? Quelles nouvelles avez-vous après deux mois après cette offensive, dont Erdogan s'est quand même félicité, même après l'accord avec les Russes, l'armée turque a pu rester ici et là. Voilà, quelles nouvelles avez-vous des Kurdes syriens?
Alors évidemment, actuellement, en Syrie, les attaques du régime et avec l'appui de la Russie se fait surtout en Idlib, et la frontière sur la Turquie est devenue un peu plus calme actuellement. Il y a une sorte de modus vivendi qui s'est installé. Et les organisations kurdes et les forces armées kurdes de la région ont été retirées de 30 kilomètres au sud de la frontière turque, mais certaines villes frontières sont restées sous contrôle en partie des Kurdes, en partie du régime, avec la protection russe. Le problème, c'est que les Américains, aujourd'hui, deviennent de plus en plus inefficaces dans la région, et l'appui principal des Kurdes de Syrie dans leur organisation autonome militaire administrative au nord de la Syrie, s'est fait par l'appui américain. Et comme Trump a décidé de se retirer de la Syrie d'une manière totalement inattendue il y a un an à peu près, Du coup, les Kurdes de Syrie aujourd'hui sont en train de négocier avec le régime de Assad pour pouvoir disposer d'une certaine reconnaissance de leur identité nationale, une petite peut-être autonomie locale, et peut-être les forces armées kurdes vont s'enrôler dans les forces de régime syrien avec une certaine autonomie. Mais tout ceci ne sont que, pour le moment, des hypothèses de négociation.
Est-ce que, on a entendu encore dans le journal de Clara Lecoq-Réal, les États-Unis sont évidemment occupés ailleurs pour l'instant. Des roquettes sont tombées encore cette nuit sur une base militaire américaine en Irak. Est-ce que les tensions très vives depuis quelques jours entre les États-Unis et l'Iran peuvent avoir des conséquences en Irak et en Syrie et peut-être en Turquie pour les Kurdes? Et pourquoi?
Pour la Syrie directement, les conséquences, c'est comme je disais tout à l'heure, si l'armée américaine se recule totalement de la Syrie, d'ailleurs leur présence s'était beaucoup affaiblie, et si l'armée américaine se retire de l'Irak, puisque pour intervenir en Syrie, l'armée américaine a besoin d'une base irakienne, et dans ce cas-là, les Kurdes de Syrie auront besoin encore plus, seront contraints de négocier et de rentrer dans le rang du régime syrien pour pouvoir assurer leur protection face à la Turquie, qui est dans une position agressive vis-à-vis des forces kurdes syriennes, puisque le Tayyip Erdogan et l'État turc, au-delà de Tayyip Erdogan cette fois-ci, l'État turc et les nationalistes turcs, c'est pas simplement les islamistes, mais les nationalistes turcs aussi, accusent le nord de la Syrie, pour eux, constitue un danger pour la sécurité nationale, pour la sécurité de l'État. Et cette relation du PKK avec YPG ou les organisations milices kurdes syriens sont exagérées pour signifier un danger potentiel pour la Turquie, alors que jusque-là, la Turquie n'a subi aucune attaque, aucun danger direct depuis sa frontière syrienne. Depuis 2011-2012.
Merci beaucoup Ahmet İnsel d'avoir été avec nous ce matin pour en parler. Et puis Selahattin Demirtaş a publié deux livres qui sont parus ici en France, traduits, édités par Emmanuel Colas, et je les cite, c'est L'Aurore, écrit en prison, paru en 2018, et puis plus récemment Et tournera la roue. Je vous remercie Ahmet İnsel et je vous souhaite une très bonne journée.